On a parlé ensemble de la liberté du disciple. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va avec le mot disciple ? Avec le mot liberté, qu'est-ce qui peut aller avec ce mot-là par la suite ? Et j'ai trouvé qu'un seul mot qui pouvait aller avec le mot liberté, c'est le mot obéissance. Bizarre, hein ? Quand même bizarre. Pas normal, vous allez dire. Liberté. Si la liberté, c'est faire ce que j'ai envie de faire, je n'ai qu'à obéir qu'à une seule personne, c'est-à-dire à moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous demandez aux gens dans la rue, c'est quoi la liberté pour vous ? Ben, c'est ça, la liberté, elle est vite définie. C'est faire ce que j'ai envie de faire. C'est faire pour répondre à mes propres désirs. Et en ce sens, l'obéissance, on ne voit pas du tout dans comment l'obéissance aurait besoin d'être à côté de ce mot « liberté ». Mais parce que, bien évidemment, la liberté dont nous parlons, lorsque nous parlons de cette liberté chrétienne ou la liberté en Christ, c'est pas du tout celle que l'on croit et que l'on a acceptée dans notre société. La liberté en Christ, ça veut dire être libéré, parce qu'on n'était pas libre avant. Donc on est libéré. On est libéré de quoi ? On est libéré de chaînes, on est libéré du mal, hein, ou du péché qui nous empêchait de faire la volonté de Dieu, en fait, qui nous empêchait d'obéir à Dieu, justement. Et donc, une fois que nous avons été libérés de ces chaînes, eh bien, nous sommes en mesure d'obéir à Dieu ou d'obéir au commandement de Dieu. Donc, quand on parle de la liberté chrétienne, il faut aussi parler de l'obéissance. Alors, tout à l'heure, quand j'ai sorti ce titre-là, il y avait un des jeunes garçons, Ruben, qui était là. Oui, c'était toi tout à l'heure. Oui, c'est toi. Il a dit, ah oui, tu vas parler du disciple. Parce qu'il se souvenait quand même de ce que j'avais parlé avant. Et je dis, oui, je vais parler du disciple, mais le disciple dans l'obéissance. Ah, oh, l'obéissance, ben non, l'obéissance. Ah oh, non, la liberté, ça c'est super, mais l'obéissance, oh là là. C'est pas un peu la réaction qu'on peut avoir, hein, face à ce mot, très très jeune, hein, quand on nous demande d'obéir, de faire justement ce qu'on n'a pas envie de faire très souvent, là ça pose problème. Et pourtant, on ne peut pas parler de la liberté chrétienne sans parler de l'obéissance aussi. Donc nous allons parler de l'obéissance ce matin, l'obéissance du disciple, à partir, pareil, du même texte dans l'Épître aux Galates. C'est ce texte-là sur lequel on va encore s'arrêter ce matin. On va lire ce texte ensemble, quand Paul dit à ses chrétiens galates, « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. » Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés du Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Quant à nous, c'est par l'Esprit que nous attendons de la foi la justice espérée, car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère ou qui agit par l'amour. Voilà le texte. Je vous rappelle les équations que je vous avais données pour synthétiser tout cela. Dans les religions, voilà comment ça fonctionne. Vous avez la loi plus l'obéissance, qui revient à la servitude, comme Paul le dit aux Galates, ou l'esclavage, dans le but du salut, égale le salut. Ça, c'est ce qu'on a dans toutes les religions. L'évangile, je poursuis avec l'évangile en bas. Jésus plus le salut, c'est-à-dire la grâce de Dieu, égale l'obéissance à la loi. Et là, c'est l'expression de cette liberté. Ça, c'est ce que nous trouvons dans l'évangile. Les Galates, eux, ils étaient passés à autre chose, un mix entre les deux, en fait. Entre la religion humaine et l'évangile, il y avait, pour les Galates, Jésus, ça c'est l'évangile. Il croyait que Jésus, bien sûr, était le Fils de Dieu, qu'il était mort et ressuscité. Mais il fallait ajouter ce qu'on a dans les religions, la loi plus l'obéissance, c'est-à-dire une forme d'esclavage, pour le salut, dans le but du salut. Ça, c'était le problème de ces chrétiens galates lorsque Paul a écrit cette lettre aux Galates. Il avait entendu dire, lui, qui leur avait apporté l'évangile, ils avaient cru au départ ce que Paul leur avait annoncé comme évangile, que Jésus, et par Jésus, on avait la grâce du salut, et que, au travers de cette grâce du salut, on pouvait être amené à l'obéissance à la loi de Dieu. Eux, ils avaient ajouté, au travers de ce qu'on appelle les judaïsants, ces juifs chrétiens d'origine juive qui venaient de Jérusalem, pour dire non, il fallait bien sûr Christ, mais il fallait aussi la loi de Moïse, et notamment la circoncision. C'est pour ça que ça revient plusieurs fois dans ce passage. Il fallait commencer par la circoncision pour les hommes. Et donc, il disait, voilà, il faut la loi de Moïse. Donc, il faut pas seulement Jésus, mais plus la loi et l'obéissance à la loi pour aller vers le salut. Ça, c'est ce que Paul a combattu au travers de cette lettre. C'est ce qu'il a dénoncé avec beaucoup de force dans cette lettre. Nous allons parler de l'obéissance donc ce matin au travers avec le plan suivant. Et le plan, on va d'abord s'intéresser à l'obéissance sous la grâce, pour ensuite nous intéresser à l'effet de la grâce sur notre obéissance. Le fait d'avoir reçu cette grâce, bien évidemment, ça a un impact sur notre obéissance. Et on terminera par, en regardant quelle est vraiment cette motivation qui peut nous amener à obéir. Qu'est-ce qui peut nous amener à obéir? On va d'abord s'intéresser à l'obéissance sous la grâce. Et pour commencer, je vais vous donner deux listes avec les mots-clés qui correspondent à ces deux listes. Vous avez « sous la loi » et « sous la grâce ». Lorsqu'on est sous la loi, voilà les mots que nous trouvons dans le Nouveau Testament qui sont rattachés à ceux qui sont sous la loi. Ces mots-là sont, et on le trouve notamment dans Galates 5, dans le texte qu'on a lu, on trouve les mots « joug », »,« esclavage », »,« obéissance », »,« division », parce que notamment dans Galates 5, Paul dira « vous vous mordez les uns les autres » ou « vous dévorez les uns les autres ». Parler de ces chrétiens dans l'Église, vous imaginez une Église où les gens se mordent les uns les autres et les gens se dévorent les uns les autres, eh bien, ça amène forcément de la division dans l'Église ou la séparation dans l'Église. Il y a la peur, il y a l'orgueil, il y a la condamnation et il y a la mort. Ça, c'est pour la loi. Maintenant, sous la grâce, qu'est-ce que nous avons comme mots qui sont rattachés à la grâce? On a le mot « liberté », donc « libération », parce qu'on a été libéré. La justice, par la justification, c'est-à-dire rendu juste par Christ, pour être dans une relation parfaite avec Dieu. Le salut, la foi, espérance, amour, ces mots-là, on les trouve dans Galates 5, notamment, rattachés à la grâce, l'obéissance, l'unité et la vie. Voilà les mots qui sont rattachés d'un côté à la loi, de l'autre côté à la grâce. Maintenant, vous choisissez. Voilà, faites vos courses. Les soldes sont terminés, mais faites vos courses. Faites vos jeux. Qu'est-ce que vous préférez? La liste de gauche ou la liste de droite? Vous avez vu, quand vous êtes à gauche, ça n'a rien à voir avec la politique, ça, hein. Pas de confusion possible. Mais dans l'Évangile, si vous êtes sous la loi, voilà ce qu'on vous offre, voilà ce que vous trouvez. Si vous êtes sous la grâce, voilà ce que vous trouvez. Il y a quand même une particularité dans ces deux listes, et je ne sais pas si quelqu'un l'a trouvé, cette particularité. Obéissance. Chaque élément que vous avez dans cette liste, vous ne les trouvez que dans une liste. En revanche, vous avez un élément que vous retrouvez dans les deux listes. C'est le mot « obéissance ». Le mot « obéissance », on le trouve par rapport à la loi. Ah oui, la loi, c'est fait pour être obéi, bien évidemment. Si on vous donne des commandements, c'est pour obéir à ces commandements. Donc l'obéissance se trouve sous la loi, mais l'obéissance aussi se trouve sous la grâce. Là aussi, nous sommes appelés à obéir à Dieu ou au commandement de Dieu. Les chrétiens galates, ils avaient bien commencé, c'est ce que Paul leur dira, vous avez bien commencé, mais Malheureusement, vous n'êtes pas allé plus loin. Et ils avaient perdu cette liberté, en fait, en revenant sous la loi, en fait. La loi nous amène à l'obéissance, nous demande l'obéissance pour le salut. Et là, en ce qui concerne les résultats de cette loi, ou les conséquences de cette loi, c'est qu'il y aura changement, il y aura amélioration, mais ça sera forcément limité. Alors qu'avec la grâce du salut, nous sommes amenés à l'obéissance avec un véritable changement. Donc on va poursuivre en voyant maintenant la différence entre l'obéissance sous la loi et l'obéissance sous la grâce, puisqu'on retrouve l'obéissance dans les deux listes, comme nous l'avons vu. Pour illustrer cela, prenez une barre de fer. Si vous pliez cette barre de fer, après, si vous voulez remettre cette barre de fer dans sa forme initiale, il va falloir être costaud, bien sûr, on peut toujours le faire, et pour la redresser, seulement en la redressant, elle ne sera jamais comme elle était auparavant. Et même, il y aura toujours un point plus faible. Parce que si vous recommencez ça plusieurs fois, vous savez ce qui arrivera. Il y a une autre manière de redresser cette barre de fer, c'est de la passer par le feu. C'est d'être soi-même forgeron, et d'avoir une forge, et puis de repasser ce fer, ce métal par le feu, pour lui redonner sa forme initiale et sa force initiale. Bien, cette image en soi, elle montre la différence qu'il y a entre la loi et la grâce. Lorsque je suis sous la loi, bien évidemment, je veux changer, je veux redresser. Le cœur est tordu, il a besoin d'être redressé. Et je peux le faire par mes propres efforts, ma volonté, en obéissant à la loi. Et il y aura un changement, il y aura une amélioration. Mais ce changement sera plus souvent extérieur que intérieur, en fait. À l'intérieur, c'est toujours la même chose. Le changement est limité. Par la loi, le changement sera toujours limité. Il sera jamais total. Alors que l'Évangile propose, au travers de l'Esprit de Dieu, de mettre notre barre de fer à nous, qui est tordue, notre cœur, sous le feu de l'Esprit, on peut dire. Et là, il y a un véritable changement qui se fait en profondeur. Un changement radical, c'est la raison pour laquelle vous trouvez des expressions pour qualifier ce changement dans le Nouveau Testament comme nouvelle naissance. Vous connaissez hein, qui a été l'auteur de cette expression, nouvelle naissance, Jésus en parlant à Nicodème. Nouvelle créature. Vous savez que Paul a utilisé cette expression-là, nouvelle créature ou nouvelle création, donc pour montrer la radicalité de ce changement, hein, la profondeur de ce changement. Ou encore la résurrection aussi, c'est un autre terme qui est utilisé pour parler de ce changement intérieur. Donc les preuves de ce changement, elles sont données notamment dans ce texte de Galates 5, vous connaissez, c'est vraiment la partie que vous connaissez peut-être le mieux dans l'épître aux Galates, c'est Galates 5, 21, lorsqu'il est question du fruit de l'esprit. Hein, certainement vous connaissez le fruit de l'esprit. En général, quand on s'arrête sur le chapitre 5 de Galates, c'est toujours cette partie-là. Et jusqu'alors, j'avais toujours fait ça. Je m'étais toujours arrêté. Je me suis arrêté plusieurs fois sur Galates 5, mais ça a toujours été pratiquement uniquement sur la partie où il est question du fruit de l'esprit. On s'arrête un peu avant, là, maintenant, et ça me fait du bien aussi. Je découvre bien des choses au travers de cette étude et qui nous aide à mieux comprendre ce qu'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, bien évidemment, montre la profondeur de ce changement. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, vous connaissez. Ça, c'est pour montrer l'importance, l'étendue de ce changement. L'Évangile, nous le savons, c'est d'être accepté par Christ tel que nous sommes, donc sur la base de la grâce, en raison de l'œuvre de Christ pour nous. Et plus rien ne peut nous séparer de lui. Vous avez deux textes qui montrent cela, ou qui rappellent cela dans le Nouveau Testament, texte d'Éphésiens, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ensuite, Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand on a entendu cela, on peut dire qu'une seule chose, amen. Bien évidemment, ça, c'est certainement ce qu'il y a de plus extraordinaire. Mais ça peut nous amener à nous poser une question. Et on va voir ça dans le deuxième point maintenant. C'est l'impact ou l'effet de la grâce sur notre obéissance. Je viens de rappeler cette théologie du salut dans le Nouveau Testament qui repose sur l'œuvre que Christ a accomplie pour nous et qui fait que Christ nous a aimés tels que nous étions et qui nous a sauvés par grâce et que maintenant plus rien ne peut nous séparer de son amour. Le fait de mettre l'accent, ça peut nous amener à nous poser la question suivante, c'est de mettre si souvent l'accent sur la grâce de Dieu, sur le fait que nous sommes acceptés par Dieu en vertu non pas de ce que nous avons fait, mais en vertu de ce que Christ a fait pour nous, et que Dieu continuera de nous accepter malgré nos manquements, malgré nos fautes, malgré nos échecs. Ça peut nous amener à nous poser la question, mais qu'est-ce qui peut vraiment nous motiver alors pour obéir à Dieu ? Vous savez, quand la religion dit aux fidèles de cette religion, vous devez obéir à la loi. Si vous n'obéissez pas à la loi, vous serez puni. Vous serez perdu. Si vous obéissez à la loi, vous aurez la récompense. Quelle est la motivation à ce moment-là ? D'un côté, c'est la peur. De l'autre côté, c'est la récompense. C'est le désir d'avoir cette récompense. Là, on sent les motivations. La peur de la condamnation, la peur du jugement, etc. Ça, c'est ce que nous avons dans la religion. Mais quand l'Évangile nous dit « Vous êtes sauvés par grâce », pas en raison de ce que vous avez fait, mais de ce que Christ a fait pour vous, et que maintenant plus rien ne peut vous séparer de lui, qu'est-ce qui va nous motiver pour obéir maintenant ? Parce qu'on connaît un peu la nature humaine. Je sais pas... Ça doit arriver assez souvent, par exemple, pour des enfants qui sont à l'école, aux études. Quand il s'agit pour l'élève de passer dans la classe supérieure, au milieu d'année où les notes ne sont pas très bonnes, là, il peut y avoir un conseil de classe qui est un peu difficile et les parents disent à leur enfant, ils disent, il va falloir que tu donnes un coup de collier parce que sinon, si tu fais rien, si tu fais pas mieux, tu vas redoubler, tu vas pas passer. Donc là, il y a une motivation. La motivation, c'est de passer dans la classe supérieure et de pas être puni, bien sûr, en restant dans la même classe ou en redoublant sa classe. Il peut être motivé, et parfois c'est ce qui se passe, hein, il est motivé, il travaille, et parce qu'il travaille, il a de bonnes notes, et parce qu'il a de bonnes notes, il passe à la classe supérieure, ou par exemple, il passe son concours pour aller dans une école, une grande école, et à ce moment-là, il est dans cette grande école, mais il a dû travailler pour cela. Qu'est-ce qui peut arriver après, une fois qu'il est passé dans l'autre classe, une fois qu'il a été accepté dans cette nouvelle école? Qu'est-ce qui peut arriver? Vous savez ce qui peut arriver? Il peut y avoir un petit relâchement, vous voyez? Il peut y avoir un petit relâchement dans le travail de l'enfant. Il est plus aussi motivé qu'avant. Il se dit, moi, ça y est, j'ai été accepté maintenant. Moi, je suis dans cette grande école. Alors, bien sûr, après, il va falloir quand même aller jusqu'au bout. Mais il a fait l'essentiel, le plus important. Et maintenant qu'il est dans cette grande école, il peut y avoir un relâchement. Vous voyez, la carotte, elle est plus aussi importante, là. Et parce qu'il n'y a pas la carotte qui est aussi grande, la motivation n'est plus aussi grande. Si l'enfant, lui, il a l'amour des études, vous voyez, ce qui arrive quand même, hein. S'il a l'amour des études, ça suffit. L'amour des études pour travailler, bien évidemment. C'est même pas le fait de réussir. Ce qui compte pour lui le plus, c'est de travailler, c'est d'étudier. Mais quand il n'a pas l'amour des études, Si Dieu nous a acceptés, nous a sauvés sans qu'on ait eu besoin de travailler pour cela, pour réussir. Une fois qu'on est accepté, on pourrait être tenté de nous relâcher. Non ? On pourrait être tenté de se dire, ben, maintenant qu'on est accepté, le pasteur, il n'arrête pas tous les dimanches de me dire que ça y est, t'es sauvé en Christ, t'es accepté, Christ t'aimera toujours. Ben, formidable. Il peut y avoir un petit relâchement, vous savez, le relâchement qu'on constate par exemple dans l'église d'Éphèse. Lorsqu'on lit dans l'Apocalypse, Jésus, au travers de l'apôtre Jean, qui dit à cette église, « Vous avez abandonné votre premier amour !» Voilà, il y a eu un relâchement là. Ou quand il dira à l'église de Laodicée, « Mais vous êtes tiède !» Forcément, s'il dit cela, c'est parce qu'il y a eu un relâchement. Vous savez que certains iront plus loin que ça encore. Paul le dira par exemple aux Romains. Il dira, ah, c'est formidable l'évangile, parce que là où le mal abonde, la grâce, elle est toujours là, encore plus abondante. C'est quand même pas mal l'évangile, hein? Donc, on pourrait peut-être dire, ben, on pourrait rester dans le mal, on pourrait continuer dans le mal, on n'a pas besoin d'obéir, parce que si on n'obéit pas, ben, la grâce, elle va encore surabonder un peu plus. Vous voyez le raisonnement? Et si Paul dit ça, c'est parce qu'il y en a qui croyaient vraiment cela. Et il y en a qui faisaient vraiment cela, à ce moment-là, à Rome et ailleurs. C'était devenu leur doctrine à eux. Ils disaient, ben oui, ben c'est formidable l'évangile. On est sauvés gratuitement, c'est un don de Dieu, et Dieu nous aimera toujours. Alors, peu importe ce qu'on fait, on n'a pas besoin de travailler, et puis même si on continue dans le mal, eh bien il nous bénira encore davantage. Bon, je sais que vous ne pensez pas comme ça. Mais voyez jusqu'où on peut aller dans le raisonnement. C'est dangereux, vous allez dire. mais Daniel, c'est très dangereux l'évangile. Mais oui, c'est dangereux l'évangile. Vous avez raison. C'est très dangereux. Quand on a l'esprit mal tourné, c'est très dangereux. Lorsqu'on veut déformer les choses, c'est très dangereux. On peut le faire. Alors, qu'est-ce qui peut nous amener à éviter ce piège? Qu'est-ce qui peut nous amener justement en se disant, mais à partir du moment où je suis accepté, si c'était pour être accepté, alors là, je serais motivé. Je dirais, là, il faut que je fasse les choses. Il faut que je prie, il faut que je vienne à l'église, il faut que je serve Dieu d'une manière ou d'une autre. Et quand j'aurai fait toutes ces œuvres-là, alors à la fin, je serai accepté. Là, je suis motivé. Mais si je suis déjà accepté au départ, pourquoi venir à l'église alors? Pourquoi prier? Pourquoi servir? Pourquoi résister au mal? Vous voyez? Comment éviter ce genre de dérive, ou d'hérésie même, on pourrait dire? Alors, il y a deux méthodes. Il y a d'abord une méthode qui est la mauvaise. On va s'intéresser à la mauvaise d'abord. Et ensuite, on s'intéressera à la bonne. Il y a deux manières de faire pour répondre à cela. La première, on peut se dire, mais il ne faudrait peut-être pas toujours parler de la grâce comme ça. À force d'en parler, vous allez conduire les gens à penser comme ça. Vous allez produire peut-être une certaine paresse spirituelle chez eux et ôter l'envie d'obéir. Si vous leur dites toujours « Dieu vous aimera tout le temps, quoi que vous fassiez, ça ne va pas les inciter à obéir ». Alors, la solution, c'est peut-être d'en dire moins sur la grâce et puis d'en dire un peu plus sur la loi. Rappelez les commandements de Dieu. Il faut qu'ils sentent la pression, là. La volonté de Dieu. Réveillez peut-être un peu en eux la peur, justement. Il faut garder une sorte d'équilibre entre la grâce et la loi. Parler de la grâce de Dieu, bien sûr, mais il faut parler de la loi aussi. Faut dire, ces chrétiens, faut pas qu'ils mentent, faut pas qu'ils volent, faut pas qu'ils fassent le mal. Les gens qui pensent comme ça, ils pensent que Paul ne faisait pas ça, justement, alors que c'est faux. Paul parlait beaucoup de la grâce. Mais quand vous lisez ces lettres, il parlait aussi beaucoup de la loi. Mais du côté des autres aussi, ceux qu'on appelle les judaïsants, il parlait beaucoup de la loi, mais il parlait aussi de la grâce. Il parlait de Jésus aussi. Vous l'avez vu dans l'équation. Si on peut la remettre, cette équation, vous avez dans l'équation des Galates, vous avez la loi, l'obéissance à la loi, oui. Il parlait beaucoup de la loi, mais il parlait de Jésus aussi. Il n'avait pas exclu Jésus. Ils n'étaient pas retournés aux religions païennes où il n'y avait que la loi. Non, non, il y avait la loi chez eux, il y avait l'obéissance à la loi, le rappel de la loi, bien sûr, mais il y avait aussi Jésus. Et puis Paul, quand il donnait ses exhortations, ses enseignements, il parlait de Jésus avec la grâce, bien évidemment, mais il parlait aussi de la loi. Si vous vous arrêtez sur des lettres de Paul, elles ne sont pas toutes construites sur le même format, mais il y en a plusieurs qui sont construites exactement sur le même format. Et le format, c'est lequel ? C'est la première partie, Paul rappelle le salut par grâce. Éphésiens, c'est typiquement cela. Vous avez trois chapitres où Paul rappelle comment ces Éphésiens ont été sauvés, comment le salut a été donné par grâce au travers de l'œuvre de Christ, et il rappelle toute cette œuvre que Christ a accomplie pour eux. Et puis, à partir du chapitre 4, c'est-à-dire à la moitié de ce livre, il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, puisqu'il était en prison à Rome, quand il a écrit cette lettre, à marcher d'une manière digne de l'appel que Dieu vous a adressé. » Et dans la suite, vous avez par exemple ce genre d'enseignement, c'est pourquoi renoncer au mensonge. C'est la loi, ça. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ou encore, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Ou encore, que celui qui vole ne vole plus. Enfin, vous voyez, c'est le rappel à la loi, cela. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Paul, quand il parlait de la grâce, il n'oubliait pas la loi, parce qu'il savait que la grâce les avait libérés pour les rendre capables d'obéir à la loi. Donc il va leur rappeler la loi. Donc la solution, c'est pas de dire « Ah ben oui, il ne faut pas que parler de la grâce, il faut parler de la loi. » Mais oui, de toute façon, il ne faut pas parler que de la grâce, il faut aussi parler de la loi. Mais tout dépend comment on en parle. On a vu que l'obéissance se retrouvait à la fois dans la colonne sous la loi et la colonne sous la grâce. L'obéissance dans la colonne sous la loi, c'est dans le but d'être accepté. J'obéis pour être accepté. L'obéissance sous la colonne de la grâce, c'est j'ai été accepté et maintenant je peux obéir à Dieu. C'est plus la même chose. On présente plus la loi de la même manière. Pourquoi est-ce que je viens au culte ce matin ? Pourquoi je suis là ? Pour obéir à la loi, j'ai envie de dire oui. Mais est-ce que j'obéis à la loi pour être accepté par Dieu? Non. Je suis déjà accepté. Pourquoi est-ce que je lis la Bible? Pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je sers Dieu? Pourquoi est-ce que je résiste au mal? Paul va donner, lui, sa réponse. Sa réponse, on la lit donc dans ce texte Galate, lorsqu'il dit « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou l'amour. » Une autre version, « Quant à nous, du même verset ou de la même, de ce paragraphe, c'est par l'Esprit en vertu de la foi que nous attendons fermement que se réalise ce que la justification nous fait espérer, car pour celui qui est en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision ne sont effacées, mais la foi agissant par l'amour. » Il parle de deux choses là, il parle de l'espérance et de l'amour. Quand ce verbe espérer, ou le mot espérance, vous le trouvez dans le Nouveau Testament, il veut certainement pas dire ce que nous lui donnons lorsque nous l'utilisons. chaque fois que nous utilisons ce verbe « espérer », si vous dites « j'espère que demain il va faire beau », on espère tous que demain il va faire beau, surtout si on est en vacances. Vous n'êtes pas sûr que demain il va faire beau. C'est ce que vous voulez dire. Il y a des probabilités. Si je regarde la météo, il y a des probabilités. Mais on n'est pas sûr à 100%. Dès qu'on utilise ce verbe espérer, on manifeste, on exprime une incertitude en fait. C'est un désir, c'est un souhait, mais on n'est pas sûr qu'il se réalise. Lorsque nous trouvons ce verbe ou ce mot dans le Nouveau Testament, c'est jamais pour exprimer une incertitude, c'est toujours pour exprimer une certitude. C'est le verbe elpis en grec qui signifie une attente certaine. Donc quand Paul parle de cette espérance que nous avons, du salut, de la justice, c'est une certitude. Par exemple, nous lisons dans le texte de Tite, Paul, l'auteur, qui dit à Tite, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Nous sommes dans l'attente de cette bienheureuse espérance. Et quand on dit « j'espère avoir ou être dans la présence de Dieu », ce n'est pas un souhait seulement, c'est une certitude. Vous savez, c'est un peu comme si vous alliez en vacances. Quand on va en vacances et qu'on a un voyage à faire, que ce soit en voiture ou l'avion ou le train, peu importe, il y a de fortes chances qu'on arrive à destination quand même. La preuve, si Angers était votre destination, ici c'est le cas pour nos amis marocains, ils sont venus, ils sont arrivés à destination. Mais quand on part comme ça en voyage, on n'est jamais sûr à 100% d'arriver. Il y a de fortes chances qu'on arrive. La grande majorité des gens arrivent, heureusement. Mais vous regardez les journaux demain matin, vous allez voir que ce week-end, il y a des gens qui ne seront pas arrivés à leur destination, particulièrement par la route. Et ça peut arriver même en avion, même si c'est le moyen de transport le plus sûr. On n'est pas sûr à 100% d'arriver. La différence avec l'Évangile, c'est que quand il est parlé de cette espérance, il est parlé de notre destination. Et là, la Bible nous dit notre destination, elle est certaine à 100%. À 100%. À une condition, j'ai envie de dire, c'est que je reste dans la voiture quand même. Vous voyez, si je quitte l'Évangile en cours de route, ce qui arrive malheureusement, c'est-à-dire une manière de quitter la voiture ou d'aller dans une autre direction, là c'est sûr que je ne vais pas arriver à cette destination. Mais si je reste dans la voiture, c'est-à-dire si je reste dans l'Évangile, dans la vérité de l'Évangile, mais je suis certain, absolument certain d'arriver à destination. C'est une certitude ça. Dieu s'est engagé là-dedans. Là-dessus, pardon. C'est l'espérance que Paul appelle l'espérance de la justice. C'est un voyage assuré à 100%. Forcément, de savoir cela, ça va quand même avoir un impact pendant le voyage. On n'a pas besoin de voyager dans la peur. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui prennent leur voiture et qui vont faire un voyage et qui sont dans la peur? Surtout quand ils sont en avion, par exemple. Alors c'est le moyen de transport le plus sûr, mais bon, c'est comme ça. Hein? Pourquoi ils sont dans la peur? Parce qu'ils ne sont pas sûrs à 100% d'arriver. Mais lorsque vous êtes sûr à 100% d'arriver, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ah, c'est vrai que sur la route, il peut y avoir des pannes. Sur la route chrétienne, c'est pareil. Il peut y avoir des pannes, il peut même y avoir des accidents. Oui, oui, il peut y avoir des problèmes qui se posent sur la route. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais la destination est assurée à 100%. Savoir cela, ça va forcément avoir un impact dans ma manière de voyager ma vie chrétienne. Les conséquences sont les suivantes. Paul parle, vous avez vu, de la circoncision et de l'incirconcision. Quand Paul parle de la circoncision, il parle d'obéir à la loi. Il dit obéir à la loi, la circoncision ou la circoncision, ça n'a pas de valeur, dit-il. Ça n'a pas vraiment d'importance. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Par rapport à Dieu. Il dit, si j'obéis à la loi, ou si je suis circoncis, mais disons-nous de manière plus large, obéir à la loi, ou si je fais le bien, si je résiste à la tentation, si j'aide quelqu'un, si je fais du bien à quelqu'un, ça ne signifie pas que Dieu va m'aimer parce que j'ai obéi. Dieu n'attend pas que je fasse cela pour m'aimer. Il m'a déjà aimé avant de faire quoi que ce soit. Donc, si je fais quelque chose pour lui, et c'est pour ça que Paul dit la circoncision, ça n'a pas de valeur. C'est pas parce que je fais quelque chose pour Dieu que ça va amener Dieu à m'aimer. Non, il m'aimait déjà avant. En fait, si j'ai pu obéir à Dieu, si j'ai pu faire le bien, si j'ai pu résister au mal, c'est parce que je sais que j'ai été accepté par Dieu. Je sais que Dieu m'a aimé. Et c'est ça qui me donne la force d'obéir ou de faire le bien. Le salut, on le sait, c'est l'amour de Dieu avant l'obéissance. C'est de savoir que je suis aimé tel que je suis. C'est vrai avec la circoncision, donc c'est vrai avec l'obéissance à la loi. Si j'obéis à la loi, c'est pas ce qui va amener Dieu à m'aimer. Donc si j'obéis à la loi, c'est pas pour être aimé de Dieu, je suis déjà aimé de Dieu. C'est parce que je suis aimé de Dieu que j'obéis à la loi. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire dans le sens de l'incirconcision. Et quand Paul parle de l'incirconcision, entendez, ne pas obéir à la loi. Si je ne fais pas le bien que je dois faire, ça m'arrive, même en tant que disciple ou en tant que chrétien, ça ne veut pas dire que Dieu va m'aimer moins. Ça ne veut pas dire que Dieu va me rejeter. Il m'aimera encore. Même si je n'obéis pas toujours à ses commandements. Même si j'ai des manquements. Vous voyez le raisonnement? Il est le suivant. Si je fais tout, ou si je fais ce que je dois faire, je ne suis pas plus aimé de Dieu. Et si je ne fais pas ce que je dois faire, je ne suis pas moins aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait pour moi, qui m'a rendu juste, qui m'a sauvé, qui m'a pardonné, et qui me remplit et qui remplit mon cœur de cette réalité. Et c'est ça qui me transforme, en fait. Donc, il y a deux choses dans ce que Paul dit ici. Il y a l'espérance, c'est-à-dire la certitude d'arriver au bout. Donc, la certitude d'être aimé. On l'a lu le texte, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, la certitude d'être aimé de Dieu, sur tout le chemin de la vie chrétienne, en fait, et d'arriver à destination, donc. Et ce n'est pas ce que je vais faire ou ce que je ne vais pas faire qui va faire que je sois plus aimé de Dieu ou moins aimé de Dieu. Et ça, bien sûr, de savoir que je suis aimé tel que je suis, malgré toutes mes fautes ou mes faiblesses. C'est connaître cet amour de Dieu qui déclenche ou qui crée, qui suscite un amour en moi pour ce Dieu qui m'a tant aimé, en fait. Et l'amour, on le sait, il n'y a pas de plus grande force au monde que l'amour. Il n'y a pas de plus grande puissance dans l'univers que la puissance de l'amour. C'est cette puissance-là qui va nous changer, en fait. C'est pour cela que le fruit de l'esprit, il commence par quoi? Il commence par l'amour. Je terminerai avec une illustration. Elle nous a été donnée par Spurgeon, Charles. Charles Spurgeon. 19... Non, avant. On parlera des carottes après. Vous avez vu les carottes? Vous êtes rapide, vous. On va faire nos courses après, hein, d'accord? D'abord, Charles Spurgeon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pasteur baptiste du 19e siècle à Londres, un grand prédicateur aussi. J'ai pratiquement toutes ses prédications dans ma bibliothèque. Ouais, un grand monsieur, en fait. Et il a donné cette illustration un jour pour justement expliquer de quelle manière nous sommes appelés à obéir à Dieu. Et cette histoire qu'il raconte, c'est l'histoire des carottes et du cheval. Vous connaissez l'histoire des carottes et du cheval? Vous voulez connaître cette histoire avant de vous endormir? Si je la raconte bien, vous allez vous endormir. En fait, il raconte l'histoire du serviteur d'un roi qui était un jardinier, qui avait donc un terrain dans lequel il cultivait ses légumes. Et un jour, il avait vraiment fait une super récolte de carottes. Et il aimait tellement son roi qu'il a ramassé des carottes dans un panier et puis qu'il est allé au palais pour les offrir à son roi. Il est allé devant le roi et dit, écoute, voilà, je suis le jardinier, je travaille cette terre, et voilà ce qu'elle a récolté. J'ai de magnifiques carottes et je suis venu pour te les offrir, mes plus belles carottes. Le roi, il a été touché. Il a vu qu'il y avait vraiment un acte de générosité pure. Il n'y avait pas de calcul, il n'y avait rien. Simplement lui offrir ses carottes. Le roi était tellement content qu'il lui a dit, écoute, je suis tellement content de ce que tu fais que je vais te donner un autre terrain, plus grand, et tu vas pouvoir cultiver encore plus de carottes. Tu vas bosser plus. Donc il lui offre, je sais pas, un hectare ou deux, peu importe, dans l'histoire, ça, c'est pas gênant. Et le jardinier, il est content. Il a un héritage supplémentaire, un terrain supplémentaire, donc il sort. Et puis, il y a quelqu'un d'autre dans le royaume qui entend cette histoire, et lui, il est éleveur de chevaux. Lui, sa spécialité, c'est les chevaux. Il a un rat. Et quand il entend cette histoire, il dit, oh là là, c'est pas mal ça. Lui, il se dit, tiens, je vais prendre mon meilleur cheval. Le plus bel étalon, celui qui a le plus grand potentiel, et je vais aller l'offrir au roi. Donc il y va, au palais le lendemain avec son cheval et dit, voilà, moi je suis un éleveur de chevaux et je suis venu te faire le plus beau cadeau que je pouvais te faire, c'est t'offrir mon meilleur cheval, mon meilleur étalon. Et le roi dit, oh, très bien, merci, au revoir. Il sort du palais et il dit, mais c'est pas possible. Le roi, il voit qu'il n'est pas content, il dit, tu veux savoir pourquoi j'ai pas fait la même chose qu'avec le jardinier? Il lui dit, hier, le jardinier, il m'a vraiment donné le fruit de son travail. Toi, tu t'es donné un cheval. Il lui dit, toi, tu t'es donné un cheval, en fait. Toi, tu m'as donné ton cheval pour que tu puisses en avoir encore un meilleur, et peut-être un 10 de plus. Et c'est pour ça que je n'ai rien fait. L'histoire est simple, mais elle dit exactement ce que nous sommes en train de partager ce matin. Si nous pensons avoir fait quelque chose pour Dieu dans le but de gagner le ciel, ça veut dire qu'on n'a jamais rien fait pour Dieu. On n'a jamais vraiment rien fait pour lui. Ce qu'on a fait, c'était pour nous. Comme l'éleveur de chevaux, mais pas le jardinier. Si ce que je fais, c'est pour recevoir quelque chose de la part du roi, c'est-à-dire que je le fais pour moi, en fait. Le jardinier, lui, l'a fait uniquement pour le roi, par amour pour le roi. Si je donne mon pain aux pauvres, comme l'Évangile m'incite à le faire, pour gagner le ciel ou la faveur de Dieu, je ne fais pas d'abord ça pour Dieu, en fait. Je ne fais même pas d'abord ça pour les pauvres. Je fais d'abord ça pour moi. Parce qu'il y a quelque chose à la clé. Ça change tout dans ma manière de faire les choses. Si nous sommes sauvés par l'œuvre que Dieu a faite en envoyant son Fils, non pas pour ce que nous avons fait pour lui, simplement par amour pour nous. Il nous a aimés tels que nous sommes, il nous a donné de la valeur. Si je sais cela, forcément ça va changer mon rapport avec Dieu. Parce que j'ai plus besoin de faire quelque chose, donner aux pauvres, ou servir les autres, ou prier, ou venir ici. J'ai plus besoin de le faire pour moi. J'ai plus besoin de le faire pour que Dieu m'aime. Je le fais parce que je suis aimé par lui. Une fois que je sais cela, je suis en mesure de faire quelque chose pour lui, uniquement pour lui, et non pas pour ce qu'il peut me donner en retour. Savoir que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, c'est ce que nous savons et c'est ce que nous sommes là pour nous rappeler encore ce matin lorsqu'on va partager ce repas de Sainte-Cène. C'est ce qui peut nous rendre vraiment capables d'obéir à la loi, par amour pour lui. Alors s'il se trouve qu'on est et que vous êtes ce matin dans un moment de relâchement, ça arrive. Il y a encore un chrétien qui m'a dit il n'y a pas longtemps, il m'a dit je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie ces derniers temps, parce que je m'étais vraiment relâché dans beaucoup de domaines. Et ça arrive, j'ai envie de dire, ça arrive à tout le monde. À des moments où on se laisse emporter par les choses de la vie. Et qu'est-ce qui peut nous ramener? C'est de savoir qu'il nous a aimés et acceptés tels que nous sommes et qu'il nous aimera toujours. Et si je fais quelque chose pour lui, ce n'est pas pour être plus aimé par lui, parce que je le suis déjà. Et s'il m'arrive de manquer à quelque chose, je ne serai pas moins aimé par lui, parce qu'il m'aimera toujours. Cette vérité-là, c'est cette vérité-là qui peut vraiment nous changer en profondeur, frères et sœurs. Qui peut m'amener, comme ce matin, à dire « Je viens ici au culte, j'aurais pu faire d'autres choses. » Mais si je viens ici au culte, ce n'est pas pour avoir la faveur de Dieu. Ce n'est pas pour que Dieu m'aime un peu plus. Je suis déjà aimé par lui. Donc si nous sommes là ce matin, ce n'est pas pour ça. Si nous sommes là, c'est parce que on a envie d'être comme le jardinier. Il lui a apporté ce qu'on a de meilleur. Pour lui. Uniquement pour lui. Non pas pour ce qu'il peut me donner. Lui, le roi lui a donné quelque chose, mais il ne s'attendait pas à cela, il ne demandait rien de cela. Alors Dieu peut nous donner quelque chose, oui, dans sa générosité, dans son amour, il peut nous donner quelque chose. En retour à notre obéissance, mais si on obéit, ce n'est pas pour ça. Si on fait ce qu'il nous demande de faire, c'est simplement parce que lui nous a aimés. Si nous avons cela au cœur, vous voyez, au centre même de notre vie, ça va vraiment changer tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Ça peut enlever de l'amertume aussi, de la frustration, parce que des fois on se dit, mais Seigneur, j'avais fait ça pour toi, et pourquoi tu n'as pas fait ça en retour pour moi? Vous voyez qu'il peut y avoir la frustration des fois. Mais là, on n'est pas dans un rapport sous la grâce, on est dans un rapport sous la loi. Donc sous la loi, il y a l'obéissance, et sous la grâce, il y a aussi l'obéissance. Mais vous avez vu, vous avez compris que ce n'est pas la même obéissance du tout. En tout cas, moi j'ai choisi. J'espère que vous aussi, vous avez choisi. L'obéissance qui nous amène vraiment vers la liberté. On va prier ensemble. Seigneur, donne-nous d'apprécier à sa juste valeur l'œuvre que tu as accomplie pour chacun d'entre nous. Lorsque nous saurons plus profond de nous-mêmes que tu nous as aimés alors que nous étions tes ennemis, alors que nous étions des pécheurs. Et que tu nous as acceptés, Seigneur, tels que nous étions. Alors aujourd'hui, nous savons une chose, c'est que tout ce que nous pouvons faire pour toi et toute notre obéissance à ta loi, ce n'est pas pour être aimé davantage par toi, parce que tu nous aimes déjà. Et s'il nous arrive de manquer à ces commandements, de ne pas obéir comme nous devrions, cela ne nous empêchera pas d'être aimés par toi, Seigneur. Tu veux que cette vérité-là soit vraiment imprimée, gravée, dans notre cœur et dans notre esprit, Seigneur. Parce que c'est à partir de cette vérité-là que nous pouvons faire pour toi ces œuvres, uniquement pour toi, Seigneur. Et non pas pour ce que nous pourrions avoir en retour. Alors, aide-nous à recevoir cette parole maintenant, Seigneur, afin que notre présence même dans ce lieu soit simplement, Seigneur, pour toi, et non pas pour ce que tu peux nous donner ce matin. Parce que nous aimons être dans ta présence, parce que nous t'aimons pour ce que tu es, Seigneur. Et nous voulons être là où tu es. Donne-nous de vivre cela un peu plus. Tu fortifies ce matin ceux qui pourraient dire qu'ils se sont relâchés, qu'ils ont perdu leur premier amour, qu'ils n'ont plus cet enthousiasme, cette ferveur qu'ils avaient, cette spontanéité qu'ils avaient. Tu veux renouveler cela, Seigneur, dans leur cœur ce matin au travers du souvenir de l'œuvre que tu as accomplie pour eux. Et nous allons nous en souvenir maintenant, en partageant ce repas, en nous souvenant, Seigneur, du sacrifice que tu as fait pour chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, de nous replonger une nouvelle fois dans cette merveilleuse œuvre de la croix, où tu as tout donné, sans réserve. Et tu l'as fait pour tes ennemis, Seigneur. Alors merci pour ce que tu nous rappelles ce matin et pour ce que tu nous refais vivre peut-être même au niveau de notre foi, Seigneur, ce matin. Ravive notre foi, Seigneur. Ravive notre espérance. Ravive notre amour pour toi, Seigneur. C'est là notre prière. Alléluia, Seigneur. Amen.